Et c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi, avec une saison 2, la saison 2 de nos émissions en partenariat avec les Petits Débrouillards du Grand Ouest, autour de l'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, on suit l'eau de la Glo de Concarneau. Glou.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine, 10e saison de ce LEM qui réfléchit le Finistère. Les Petits Débrouillards font de la vulgarisation des sciences, de la médiation des sciences et des techniques autour de l'adaptation au changement climatique, avec des professionnels, des scientifiques, différentes actrices et acteurs pour qu'on soit préparé plutôt que stressé. Par exemple, il est plus que probable que l'accès à l'eau potable soit perturbé du fait de périodes de sécheresse auxquelles s'ajouteront des problèmes de pollution. On sait qu'en Finistère, on n'a pas de réserves souterraines ou si peu. On ne peut compter que sur les eaux de surface, les rivières. En ce moment, elles se remplissent bien, il a bien plu, il pleuvra encore. Mais ça s'en va très vite et ensuite on peut manquer d'eau. Et puis quand il pleut trop fort, on peut avoir des problèmes d'épuration, donc de potabilité. Nos invités vont nous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, on retrouve Geneviève Canivin qui est responsable de l'antenne Quimper des Petits Débrouillards. Et elle est accompagnée de Guy de l'Église, directeur eau et assainissement de Concarneau-Cornouailles Agglomération. Bonjour.
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 Alors Guy de l'Église, est-ce que vous pouvez nous détailler? Non
j'ai... Cyril.
Cyril. Bon, voilà, vraiment, j'invente des prénoms, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Cyril de l'Église, oui, c'est écrit en plus. Est-ce que vous pouvez nous redétailler un peu toutes vos fonctions? Parce que c'est énorme quand même, tout ce que vous avez à faire.
Donc, en fait, je suis directeur d'un service au sein d'une agglomération, donc à Concarneau-Cornouailles Agglomération. Et donc, on gère le petit cycle de l'eau, qui dit un peu le cycle technique de l'eau, donc la production d'eau potable jusqu'à la distribution, l'assainissement. Et le grand cycle de l'eau, qui est le grand cycle naturel, donc qui va traiter plutôt des sujets qualité d'eau brute, zone humide, qualité d'eau maritime. Voilà, donc c'est l'eau au sens large dans toutes ses dimensions, à la fois pour les habitants comme pour le milieu naturel, on va dire.
Geneviève, si une petite description du grand cycle de l'eau.
Alors, le grand cycle de l'eau, en fait, ça va décrire tous les mouvements de l'eau à la surface de la planète, parce que l'eau, elle n'est pas fixe, elle se déplace grâce à la chaleur du soleil qui va la faire s'évaporer, former des nuages, se condenser, pleuvoir, neiger, s'accumuler par moments dans certains réservoirs, comme les lacs, comme les rivières souterraines, les rivières. Alors en général, les rivières, évidemment, c'est assez rapide. Les réserves souterraines. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le grand cycle. Et va se brancher dessus ce qui s'appelle le petit cycle, c'est-à-dire que l'humain va récupérer au niveau des réservoirs qui sont à sa disposition la quantité d'eau dont il va avoir besoin, va le faire transiter par ses installations pour répondre à ses besoins, par exemple boire, aussi simple que ça, mais aussi se laver, beaucoup d'activités également industrielles qui ont des besoins d'eau importants, et puis ensuite retraiter l'eau de manière à la remettre dans le milieu naturel, la plus propre possible, évidemment.
Oui, on ne la rejette pas comme ça. Hein.
Non.
Alors, en ce qui concerne Concarneau-Cornouailles Agglomération, Cyril de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire le portrait aquatique? Enfin, combien de communes, combien de personnes concernées? Peut-être même quelle consommation?
Alors sur Concarneau, sur l'agglo, donc il y a à peu près 53 000 habitants. Donc nous, on parle en abonnés au potable, c'est 34 000, puisque dans un foyer, évidemment, il y a plusieurs personnes. Donc on a à peu près 34 000 abonnés. On distribue aux alentours de 5 millions de mètres cubes par an. À ces
tout
usagers-là,
compris.
Tout compris.
Entreprises aussi.
Entreprises, ouais. Particuliers, même agriculteurs, hein, puisqu'il y a des agriculteurs qui sont aussi branchés sur le réseau d'eau potable. Et donc une partie est retraitée dans les stations d'épuration. Et donc, voilà.
Combien de stations d'épuration?
Donc on a une dizaine de stations d'épuration réparties sur les 9 communes, oui, de l'agglomération.
Ça fait une par commune, en fait, oui.
Oui,
une physionomie quand même bien variée. Hein. C'est des communes urbaines, rurales, littorales, enfin.
Oui, tout à fait. On a vraiment un territoire qui représente assez bien le Finistère avec des communes littorales, plus ou moins touristique, avec du coup des variations saisonnières plus ou moins importantes.
Ça sera un des sujets d'ailleurs,
En fonction de l'année, mais aussi en rétro-littoral, des communes rurales qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques de variations saisonnières, qui vont avoir des structures plus petites, mais qui ont aussi leurs propres contraintes ou leurs propres dynamiques qu'il faut prendre en compte.
Et combien de cours d'eau sont captés C'est quoi les cours d'eau qui sont captés sur votre territoire?
Sur Concarneau, en fait, sur l'ensemble de l'agglomération, finalement, on a deux rivières principales. Le Mauros, qui est assez peu connu, qui est essentiellement sur une commune, mais qui est la seule ressource de la commune de Concarneau.
Il y a la plage du Mauros, quand même. Voilà.
Et puis l'Avesne, qui fait la limite avec le Quimperlé Communauté. Mais du coup, c'est vraiment ces deux bassins versants-là qui font la structure. Ce qui est intéressant dans notre territoire, et pour boucler avec Petit Cycle, Grand Cycle, c'est qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir finalement nos propres ressources. C'est des petits bassins versants. Et on gère finalement aussi, par le Grand Cycle de l'eau, la ressource qui va amener l'eau potable sur notre territoire. Ce qui est le cas de très peu de structures, finalement. Quand on a un très grand territoire, l'eau vient parfois de très très loin, et donc on n'est pas en prise directe avec ce qu'on va pouvoir influer sur l'eau brute. Donc voilà. Mais en tout cas, finalement, c'est deux rivières et après des captages.
Un côté plus simple, on va dire. Oui, puis une physionomie de toute façon, même en termes de relief, assez différente de ce que ça peut être chez nous, par exemple le bassin de l'Aulne, ou même Quimperlé, un peu Geneviève. On avait parlé de Quimperlé, on avait parlé des... Ah oui, mais c'était avec Lorient, je crois, qu'on avait parlé.
C'était avec Maude, oui.
Ouais, et donc, c'est vrai que c'était pas tout à fait la même physionomie, on va dire, la même géographie. En termes d'organisation, Concarneau, Corneuil, agglomération, le travail sur l'eau, c'est en régie, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
On est essentiellement en régie. En régie, ça veut dire que le personnel qui exploite au quotidien les réseaux d'eau potable, les stations d'eau potable, les stations d'épuration, est du personnel qui dépend directement de l'agglomération. Donc, il y a une volonté politique d'être en régie. Donc, c'est du personnel en direct. Donc, on maîtrise là aussi vraiment l'exploitation de A à Z, toute la chaîne.
Et ça, c'est vrai que je n'ai pas fait un état des lieux des communes qui sont, enfin des communes, des agglomérations qui sont en régie ou pas, mais j'ai l'impression qu'on revient à la régie ces dernières années.
Oui, tout à fait. Il y a une tendance un peu politique globale de revenir en régie, pour des raisons d'image, de montrer qu'il y a une volonté publique de reprendre la main sur des contrats qui ont pu être passés à une certaine époque. Donc effectivement, il y a plutôt une tendance à la reprise en régie.
Vous avez connu que ce système de régie, ou vous avez déjà expérimenté les systèmes privés?
On avait les deux modes de gestion en fait sur le territoire. Donc là, on transfère là pas plus tard que dans 3 semaines, on reprend 3 communes. On a 6 communes qui sont déjà en régie, et il nous reste 3 communes en marché public de prestation, et on les reprend là d'ici quelques jours. Donc j'ai connu effectivement les deux modes de gestion et je les connais encore.
Vous allez pouvoir comparer. Les deux, quel est l'avantage de l'un ou de l'autre?
On sait les points forts, les points faibles de chacun. On pourra le faire.
Très bien. Et puis, vous avez un kilométrage de canalisation, parce que cette eau ne circule pas comme ça dans les airs, n'est-ce pas? Pas uniquement. Combien alors?
Alors, en eau potable, on est à plus de 1100 km de réseau d'eau potable. Donc, c'est vraiment l'île Marseille. C'est pour vous rendre compte de ce qu'on gère, la distance. Et du coup, quand on recherche des fuites ou qu'on veut améliorer le système, on travaille sur un linéaire qui est quand même très important. Et puis, en assainissement, on doit être aux alentours de 400 km au total.
Ah oui, pourquoi c'est moins long l'assainissement, les canalisations d'assainissement?
Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas raccordé au système d'assainissement collectif. Il y a beaucoup de gens qui ont leur propre fosse, ce qu'on appelait les fosses septiques, gérées par le SPANC, qui est assez connu généralement par les gens, puisqu'il y a des contrôles réguliers. Donc il y a forcément un gros écart entre l'eau potable qui est desservie quasiment sur tout le territoire, puisque maintenant,
tout le monde a
l'eau courante. L'assainissement, ce n'est pas le cas.
Et alors, cette série d'émissions, là, elle est consacrée à l'adaptation au changement climatique. Vous, à Concarneau, qu'est-ce que vous avez constaté déjà comme impact du changement climatique sur votre domaine, l'eau?
Alors, ce qu'on voit, et La période, c'est vraiment la sécheresse 2022 qui a marqué beaucoup les esprits, localement, au niveau des élus, au niveau du grand public. Donc on se rend compte que ces épisodes de sécheresse sont assez marqués. On venait de finir un programme, un programme d'action qu'on appelle un schéma directeur, qui était en validation et est arrivé au même moment cet épisode de sécheresse qui a vraiment fait prendre conscience aux élus de l'importance de se préparer à ce changement climatique parce que on a vraiment des ressources qui diminuent.
Vous n'avez pas été à court quand même d'eau parce qu'il y a des communes par exemple dans le centre Finistère qui ont été à court.
On n'a pas été à court grâce à des petites interconnexions, grâce à des adaptations, mais on sent bien que on est plus sur quelque chose où on a de la marge et donc on peut passer la crise tranquillement, c'est plus du tout le cas. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est notamment pour les eaux de surface, c'est qu'on va tirer sur une ressource qui du coup en été est déjà par définition basse et par rapport au milieu aquatique, on se doit de réserver normalement un volume qui est laissé, qu'on appelle le débit réservé pour le milieu aquatique et on a dû demander des dérogations pour passer ce débit réservé. Donc quelque part, on impacte le milieu en prenant davantage sur ce débit réservé pour les besoins de l'homme en fait.
Geneviève, qu'est-ce qui se passe dans une rivière quand elle est vraiment à un niveau très bas, pour les espèces ?
Eh bien, pour les espèces, en fait, elles sont elles-mêmes extrêmement dépendantes de l'eau, quelles soient les espèces aquatiques pures ou alors les espèces plus terrestres, mais qui, par contre, ont besoin de l'eau en tant qu'habitat, pour chasser, pour se nourrir. On va se retrouver avec des espèces qui vont mourir parce qu'elles n'ont pas assez d'eau.
Pas assez d'oxygène, c'est un manque d'oxygène plutôt, c'est ça, dans une rivière ?
Pas forcément, ça peut ne pas être un manque d'oxygène, même s'il peut se produire effectivement des manques d'oxygène en relation avec la température plutôt.
D'accord.
Là, c'est vraiment pas assez d'eau. Un poisson, il n'y a plus d'eau, il meurt.
Parce qu'il ne peut plus bouger aussi, non ?
Parce qu'il ne peut plus bouger, ouais. Parce qu'il ne peut plus se nourrir, parce qu'il ne peut plus s'abriter, parce qu'il ne peut plus accomplir son cycle de vie, en fait. Mmh. Et donc, il va y avoir de premières espèces qui vont considérablement à souffrir. Alors, évidemment, elles ne vont pas disparaître, mais il y en aura moins. Ce qui va retentir sur la totalité de l'écosystème, notamment en raison des relations des espèces entre elles. C'est-à-dire qu'une espèce terrestre qui se nourrit d'espèces aquatiques, elle-même va en souffrir. Et donc, comme ça, en déstabilisant les écosystèmes, on a une diminution de la quantité d'êtres vivants. Or, le cercle vicieux étant que, au niveau du milieu naturel, ça va être les espèces et l'activité biologique qui vont créer les conditions pour nettoyer, pour épurer l'eau, pour la retenir quand il y en a trop, pour la relarguer quand on en manque, etc. Donc en fait, on commence ce faisant à rentrer dans des cercles vicieux.
Mmh. Donc, problème quantitatif quand même d'eau, enfin en 2022, donc tout à coup, Cyril de l'Église, le problème de la population aussi estivale de ce bassin qui est très touristique, c'est ça ? Vous passez à combien d'habitants en été à Concarneau-Cornouailles agglomération ?
C'est toujours, oui, difficile à estimer. Puis on a vraiment des situations très différentes entre les communes. Sur Concarneau, finalement, il n'y a pas un niveau... On estime à plus 20% la consommation d'eau en été. Donc c'est un facteur un peu plus élevé, mais ce n'est pas si important que ça parce que finalement, il n'y a pas de grosses structures touristiques. On n'a pas de très gros campings, etc. Ce qui ne va pas être le cas de Tréguin, Névé, Pont-Aven qui sont à côté où là, on a des très grosses structures. Et là où on fait plus 50% à l'aise entre la partie hivernale où en fait là les ressources sont tout à fait correctes pour tous les gens qui habitent 90% de l'année et puis cette période juillet-août qui peut déborder sur septembre avec en plus on voit il y a une période touristique qui s'élargit quand même un petit peu donc c'est de cet ordre là 20-50% en fonction des communes.
Et comment les entreprises industrielles, elles, est-ce qu'elles ont elles connaissent des tensions l'été ou...
Alors c'est un vrai sujet parce que ça c'est un sujet qui n'était pas du tout abordé il y a encore très très peu de temps, avant 2022 pour être très clair, c'est-à-dire que pour les industriels, c'était, permettez-moi l'expression, mais open bar, comme on dit. Il n'y avait pas de sujet, ils ouvrent le robinet, l'eau coule, ils ne se préoccupaient même pas de savoir. Voilà. Nous, on va dire que c'était un peu le cas aussi, finalement, parce que, et là, on a des discussions avec ces industriels-là, et on leur demande aussi des prévisions, c'est-à-dire comment elles se projettent, comment elles imaginent, est-ce qu'elles vont augmenter leur capacité de production, de combien, pourquoi, est-ce qu'elles sont capables de faire des économies d'eau. Donc on a dû ouvrir des espaces de dialogue avec ces entreprises-là en leur faisant comprendre qu'on était dans un système où, dès 2022 par exemple, on a dû déroger, impacter le milieu pour pouvoir leur fournir et produire. Donc, et ça, elles n'en étaient pas du tout conscientes, et c'est très important qu'on puisse leur montrer que la ressource est finie et qu'elle n'est pas infinie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans leur culture. Donc on se confronte aujourd'hui à des potentielles entreprises qui ont des projets d'extension avec des enjeux économiques, donc importants aussi pour la collectivité, et sur lesquels on s'attend dans les dizaines d'années à venir à devoir faire des arbitrages qui seront peut-être assez difficiles.
Et en revanche, les entreprises agricoles qui sont parfois industrielles étaient peut-être plus conscientes du problème, non ?
Alors sans doute, et bien sûr, puisque l'eau est évidemment une ressource très importante pour l'agriculture, ils ont beaucoup de ressources aussi privées par des forages, donc en fait ils sont aussi très sensibles à ça, et quand il y avait des sujets, ils avaient souvent déjà cherché de l'eau de leur côté. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce qui est une grosse difficulté aussi dans la projection, c'est les reports justement qui vont se faire. C'est-à-dire que si les forages privés eux-mêmes se tarissent, notamment, ils espèrent, comme tout à chacun, ouvrir le robinet du réseau d'eau potable et avoir tout d'un coup l'eau qu'ils n'ont plus et que nous, on leur fournisse. Or, aujourd'hui, on sera aussi en difficulté puisqu'on l'est, potentiellement, donc on ne pourra pas fournir non plus un volume d'eau au monde agricole. Je ne parle même pas d'irrigation, parce qu'on n'est pas dans une zone où on fait beaucoup d'irrigation, mais irriguer, c'est même pas... même pour les élevages, et les élevages, c'est quand même la base pour eux.
Ah oui, ils boivent de l'eau, ces animaux. Geneviève, juste un petit mot sur les forages. Enfin, on dit que la Bretagne n'a pas de nappe phréatique, donc un forage, c'est quoi ? C'est une mini-nappe phréatique, c'est ça ?
Oui, voilà. Dès lors qu'on a un captage en sous-sol, ça va être un réservoir d'eau qui va être situé à l'intérieur des couches, en fait, qui sont en sous-sol. Ça veut dire qu'il y a une couche imperméable.
Donc, ce n'est pas connecté à une autre rivière, quoi. Enfin, normalement,
De toute façon, tout va être connecté avec tout à un moment donné ou un autre. Avoir vraiment un réservoir qui va être complètement déconnecté du reste, ça ne fonctionne pas. Autour d'une rivière, tu vas avoir de l'eau dans les sols, nécessairement, qui eux-mêmes vont pouvoir... qui va pouvoir aller percoler éventuellement, et s'il se trouve des réservoirs souterrains à cet endroit-là. On ne peut pas vider une rivière sans que ça ait d'impact sur l'eau souterraine, et à l'opposé, vider des réservoirs souterrains sans que cela ait de l'impact sur les eaux de surface, dans certains cas hyper particuliers, cela peut éventuellement arriver, mais c'est quand même particulièrement rare.
Alors Cyril de l'Église, qu'est-ce que vous pensez faire, enfin qu'est-ce que vous avez commencé à faire peut-être à Concarneau et à l'agglomération pour anticiper ces questions ?
Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a validé auprès des élus un plan d'action sur 10 ans qui représente près de 84 millions d'euros, et qu'on sait déjà certainement trop juste. Et voilà, il y a énormément d'actions qui sont derrière ça. On s'aperçoit qu'on est vraiment obligé de diversifier les actions. Le sujet, à une époque, c'était on manque d'eau, on va en rechercher. C'est assez simple, c'est basique. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible, ce raisonnement-là. Donc on va en chercher un peu. On sait que ce sera sûrement de l'eau souterraine, donc avec des niveaux de ressources qui ne sont pas très élevés, comme on vient de l'expliquer. Donc ça ne solutionnera pas les problèmes des rivières. On va chercher à optimiser nos captages, c'est-à-dire que c'est des anciens captages, des anciens forages qui parfois ont plus d'une centaine d'années, qu'on connaît assez mal, parce que les générations, voilà, ça fonctionne. C'est assez basique comme fonctionnement, donc il y avait assez peu de questions et d'entretien quotidien, et du coup, on on a fait un diagnostic pour aller voir tous nos captages, tous nos forages, et on s'est aperçu qu'il y avait des drains bouchés, qu'il y avait des choses. Donc ça veut dire que potentiellement...
Ah oui, c'est pas toujours efficace, quoi.
Voilà,
on croit qu'on capte, puis en fait, non.
Ah ben, en fait, on s'habitue à une diminution régulière, et finalement, on peut peut-être capter un peu plus. Mm-hmm. On va essayer d'optimiser dans les usines l'eau de service pour essayer d'en perdre le moins possible. On va essayer de réduire les pertes sur les réseaux, puisqu'une fois qu'on a produit cette eau, on l'envoie dans des réservoirs, dans des châteaux d'eau, avant d'être distribué vers les habitants, et on sait qu'on perd entre 20% minimum.
Ouais. Dans les 1100 km, il y a des fuites, en fait.
Voilà, bien sûr.
C'est ça. Enfin, ça, c'est toutes les communes, elles ont le même problème.
Oui, bien sûr, puisque en fait, c'est un patrimoine, ce qu'il faut s'imaginer, c'est 1100 km, mais c'est des milliers de tronçons qui ont été faits par des dizaines et des dizaines d'entreprises et des dizaines et des dizaines de directeurs avant moi. Et donc, en fait, on a toutes les générations de tuyaux et on a toutes les générations de matériaux, plus ou moins bien posés à l'époque, plus ou moins bien solides, plus ou moins bien impactés par les routes, par les travaux qui ont été faits. Donc, en fait, c'est un jeu, c'est un énorme puzzle où on va chercher à essayer d'optimiser tout ça. Et on doit chercher des fuites, là, sur un linéaire qui est très important. Et donc, mais l'objectif, c'est quand même d'optimiser. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de réduire à la portion la plus congrue toutes ces fuites pour pouvoir optimiser la ressource et qu'un mètre cube pompé dans le milieu, dans l'idéal, apporte le maximum du mètre cube à l'arrivée.
Donc, vous renouvelez 14 km de réseau par an, ce qui est beaucoup par rapport à 4 km par an avant, quoi. Enfin, c'est énorme.
Voilà, le programme d'action fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est un calcul assez mathématique. Hein, c'est que 4 km par an, en gros, ça voulait dire que toutes nos canalisations devaient durer plus de 200 ans.
Ouais, ce qui était optimiste, quoi.
Et ce qui était plus qu'optimiste, sachant que des fois, au bout de 40 ans, on s'aperçoit qu'un tuyau qui a été posé il y a 40 ans peut être fuyard s'il a été mal posé ou si ce n'était pas de la bonne qualité de tuyau. Donc là, on est vraiment sur un objectif de renouvellement de 1% par an. Donc on fait le pari que tout ce qu'on pose va durer entre 80 et 100 ans. Et le but, c'est de renouveler 1 à 1,2% par an, donc pour arriver peut-être même à diminuer à une durée de vie de 60 ans, si on arrive à ce 1,2%, donc les 14 km. Mais c'est vraiment en place maintenant. Donc ça a été accepté, validé par les élus. On a le financement et on a adapté le prix de l'eau à ça. Donc les gens voient un prix de l'eau qui augmente. Mais c'est là aussi lié à toutes ces dépenses nouvelles dont il faut faire face pour pouvoir assurer l'alimentation en eau potable.
Et puis ça permet de les sensibiliser, justement. Si le prix de l'eau augmente, on leur explique que c'est pas mal d'économiser à la source dans les pratiques, en fait.
Oui, tout à fait. Donc là aussi, en plus de ça, c'est qu'on attaque aussi les besoins. C'est-à-dire qu'on sensibilise, donc on a des actions avec des associations, on a des actions chez les scolaires, mais aussi, donc je disais, dans les industries, dans les campings, pour essayer de sensibiliser aux économies d'eau et à limiter les besoins, parce qu'on sait aussi qu'il faudra s'adapter à ça, c'est-à-dire que la solution technique, elle aura ses limites, on voit bien, c'est ça qui perturbe d'ailleurs un petit peu les services d'eau qui sont très techniques, et c'est qu'aujourd'hui, c'est la ressource qui pose problème. Et si on n'a pas d'eau à mettre dans le tuyau, on a beau avoir toutes les solutions technique, on va avoir un problème. Donc il faut aussi qu'on travaille sur les besoins pour diminuer la tension, produire peut-être un peu plus, un peu mieux, mais aussi prélever moins et donc consommer moins, en tout cas s'adapter à cette nouvelle problématique.
Geneviève ?
Et donc en fait, on est dans une période où le changement climatique arrive. À l'année, l'un dans l'autre, on n'est pas vraiment sûr d'avoir moins d'eau, on en aurait peut-être même éventuellement un petit peu plus. Par contre, on ne va pas du tout l'avoir au même moment.
On va c'est la répartition le problème.
C'est exactement ça, la répartition, plus en hiver, moins en été. Alors évidemment, il y a plusieurs modèles qui vont générer des prévisions qui vont être un petit peu différentes. Enfin, l'un dans l'autre, ils convergent tous à peu près en direction des mêmes prévisions. Et en parallèle de ça, on a l'urbanisme sur certains territoires qui arrive au niveau où les besoins humains touchent du doigt les limites de ce que le territoire peut fournir. Ce qui veut dire que là, il faut vraiment commencer à réfléchir entre, d'une part, les besoins qui rejoignent la ressource et, d'autre part, la ressource qui change. Et ça pose énormément de problèmes qui peuvent parfois être jugés relativement peu graves, Mais comme on en parlait tout à l'heure, quand on en est à se dire qu'on va être obligé d'infléchir le développement économique d'un territoire en raison de la ressource en eau, je pense que là, quand même...
Et Cyril de l'Église, en termes d'aménagement, à part construire des maisons avec des récupérateurs d'eau, c'est quoi concrètement aménager pour tenir compte de la rareté ?
Alors, par rapport aux habitants, donc, effectivement, on a distribué des kits, des mousseurs, tout ce qui va équiper la robinetterie. Alors, il y a déjà eu pas mal d'économies d'eau, en fait, quand on s'aperçoit, les gens, le renouvellement de l'électroménager, les habitudes, on s'aperçoit que la consommation d'eau des habitants est déjà stabilisée, voire en diminution. Donc, je pense qu'il y a déjà un sujet, mais effectivement, il reste des marges de progrès là-dessus, des récupérateurs d'eau, et puis des habitudes, les temps de douche, on s'est habitué à pouvoir passer sous sa douche autant de temps qu'on veut. Il y a peut-être aussi un sujet vraiment de comportement lié à ça. Dans les industries, il y a plein de sujets de réutilisation de l'eau, d'économie d'eau. On voit qu'il y a du potentiel derrière ça, parce qu'on a beaucoup d'industries agroalimentaires qui avaient besoin d'utiliser de l'eau potable pour faire, mais y compris du nettoyage, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être optimisées de ce côté-là. On a un gros sujet sur les campings, dans les campings, c'est des gens qui sont en vacances, comme vous et moi, et on a envie de passer du bon temps, on n'a pas trop envie de se préoccuper, et on s'aperçoit que c'est des très très gros consommateurs d'eau, alors à la fois par les usagers, mais aussi par les campings qui sont, on a un travail avec l'Union là, des campings, c'est assez intéressant, là, on commence à avoir des actions à mener avec eux, mais les directeurs de camping, c'était dans leur charge, et c'était pas du tout un sujet, elles sont assez surpris qu'on vienne les voir sur ce sujet-là, mais on leur dit, on a un camping sur Pont-Aven qui représente plus que la commune de Pont-Aven, le seul camping en été, quoi. C'est assez énorme. Et donc, on double la commune par un seul camping. Donc, et finalement, tout se passe dans une sphère privée, dans un site, et qu'on ne maîtrise pas du tout, au contraire, de tout le reste. Donc, c'est important aussi de travailler avec eux, de voir comment on peut les accompagner sur des solutions techniques, parce qu'il y en a.
Bon, on va devoir s'arrêter là, alors qu'il restait encore des sujets, j'en ai bien conscience. Mais merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et merci au Petit Débrouillard de co-organiser cette émission avec nous. Vous pouvez réécouter toutes les émissions sur le site internet de Transistor. Et la prochaine, avec les Petits Débrouillards, ce sera le 20 janvier. Et il s'agira justement de s'adapter aux risques inondations. Merci, au revoir.